Chapitre 14. Irène se faisait beaucoup de soucis pour Laura. Dans la cuisine, alors qu'elle réchauffait dans une casserole des haricots blancs à la sauce tomate, qu'elle comptait ensuite verser sur une tranche de pain de mie grillé, Carla aurait sûrement désapprouvé, elle songea à appeler sa jeune amie pour prendre de ses nouvelles. Elle se doutait que Laura répondrait que tout allait pour le mieux. « Comme sur des roulettes, vous me connaissez. » Et pourtant, quelques heures plus tôt, Irène l'avait trouvée distraite, anxieuse. Pas étonnant en soi pour quelqu'un qui venait de perdre son travail. Mais il y avait autre chose. Pour la première fois depuis qu'elle se connaissait, Irène avait senti Laura mal à l'aise en sa compagnie. Non pas que leur amitié remontât à très longtemps, quelques semaines à peine. Mais depuis qu'elles étaient entrées dans la vie l'une de l'autre, Irène s'était attachée à cette fille. Il y avait en elle une telle sensibilité, une telle fragilité, qu'Irène avait peur pour elle. Laura était la proie idéale dans un monde qui regorgeait de prédateurs. En parallèle, Irène comptait de plus en plus sur cette jeune femme, qui avait pris dans sa vie la place laissée vacante par Angela. Bien entendu, elle avait conscience qu'il n'était pas très sain de voir Laura comme une simple remplaçante. Il faut dire que, malgré leurs différences, Angela et Laura étaient assez semblables. Deux femmes drôles, gentilles et vulnérables. Et surtout, ce qu'Irène appréciait le plus chez elle, c'était qu'elle n'avait pas d'idées préconçues. Laura ne partait pas du principe qu'Irène serait incapable d'apprendre à se servir d'une nouvelle application sur son téléphone, tout comme Angela ne partait pas du principe qu'Irène dédaignerait les romans de Sally Rooney. Aucune des deux n'hésitait à faire des plaisanteries salaces en sa présence. Si la plaisanterie était drôle, Irène ne se privait pas de rire. Ni Laura ni Angela ne partaient du principe que sous prétexte qu'Irène était âgée, elle était nécessairement fragile, étroite d'esprit et peu curieuse. Contrairement à Carla, elle ne la voyait pas comme une vieille commère. Irène avait 80 ans, mais elle se sentait beaucoup plus jeune. Pas seulement parce qu'elle était alerte et bien portante, malgré sa cheville foulée, mais surtout parce qu'il était impossible d'avoir l'impression d'avoir 80 ans. Personne n'avait l'impression d'avoir 80 ans. Si on lui avait demandé son avis, elle aurait répondu que dans sa tête, elle avait plutôt 35 ans, ou 40 à la rigueur. Un bon âge, 40 ans. On sait qui on est. On a laissé derrière soi la frivolité et les incertitudes de la jeunesse, mais on n'a pas encore eu le temps de s'endurcir, de devenir intraitable. En vérité, tout le monde se voit d'une certaine manière, et si la grande majorité des gens que vous avez côtoyés toute votre vie vous voit également ainsi, peu de nouvelles connaissances savent distinguer ce que vous êtes réellement à l'intérieur, au-delà de votre apparence. Or, il n'y avait plus beaucoup de gens qu'Irène avait fréquenté toute sa vie. La plupart de ses amis de longue date avaient quitté Londres depuis des années pour se rapprocher de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. À l'époque, Irène ne s'en était pas inquiétée. Il y avait William à ses côtés pour la protéger de la solitude. Sauf qu'il y a 6 ans, par une belle matinée de mars, son William, qu'elle pensait immortel, était parti acheter le journal et n'était jamais revenu. La faute à la crise cardiaque qui l'avait terrassée au beau milieu du bureau de tabac. Elle avait d'abord cru que le choc allait la tuer, mais non. Finalement, le plus dur à supporter fut le manque qu'elle ressentit par la suite. Un claquement en provenance de la maison voisine fit sursauter Irène. Depuis le temps, elle avait appris à reconnaître le bruit que faisait la porte d'entrée en se refermant. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, mais il n'y avait personne dans la ruelle. Sûrement Carla qui était entrée chez Angela. Cette dernière était morte depuis 2 mois et Carla continuait de venir quotidiennement faire du tri. Bien qu'Irène ne vit pas ce qu'il pouvait encore y avoir à trier, Angela ne possédait pas grand-chose. Carla et Angela étaient issues d'une famille très aisée, mais on aurait dit que c'était Carla qui avait hérité de tout. Angela avait la maison, certes, mais rien d'autre. Elle avait toujours vécu chichement, avec son maigre salaire d'éditrice freelance. Son problème, c'est qu'elle avait été mère jeune. Une liaison malheureuse avec un de ses professeurs d'université, une grossesse non désirée, et tout avait basculé. Entre cet enfant qu'elle avait dû élever seule, les problèmes d'argent et tous ses autres démons, on ne pouvait pas dire qu'elle avait eu une vie facile. Beaucoup de gens avaient dit à Irène qu'elle ne connaîtrait le vrai bonheur que le jour où elle aurait des enfants. Mais ils se trompaient. Irène et William n'avaient pas réussi à devenir parents. Mais cela n'avait pas empêché Irène d'avoir une vie formidable. Un mari qui l'aimait, un métier de secrétaire médicale bien plus intéressant qu'elle ne l'aurait imaginé, des week-ends à faire du bénévolat pour la Croix-Rouge. Et puis les soirées au théâtre, les vacances en Italie. Si ce n'était pas aussi ça, le bonheur. D'ailleurs, elle n'aurait pas été contre un petit supplément. Malgré ce que certains pouvaient croire, elle n'en avait pas terminé avec la vie. Il lui restait la villa Cimbrone à visiter à Ravello et Positano, où avait été filmé le talentueux Mr. Ripley. Et Pompéi, bien sûr. Irène avait lu dans un article de journal que les gens les plus heureux au monde sont les femmes célibataires et sans enfants. Elle comprenait l'attrait d'une telle situation. Aucun compte à rendre, la liberté absolue de vivre sa vie comme on l'entend. Or, elle était bien placée pour savoir que la réalité n'était pas aussi simple. Car quand on avait connu le grand amour, la fenêtre de la liberté absolue se fermait pour toujours. Après la mort de William, Irène avait traversé une période difficile. Aujourd'hui, on parlerait de dépression, mais à son époque, il n'y avait pas vraiment d'expression consacrée. Angela appelait ça « vivre avec le chien noir ». Au cours de sa vie, Irène avait reçu plusieurs fois la visite du fameux chien. Parfois, cela la laissait clouée au lit des jours entiers. Parfois, elle parvenait à faire bonne figure. Si ces épisodes étaient dans certains cas déclenchés par un événement traumatisant, sa troisième et dernière fausse couche, par exemple, il était aussi arrivé qu'il survienne sans crier gare par une belle journée ensoleillée. Quoi qu'il en soit, elle avait toujours réussi à sortir la tête de l'eau, car il y avait William pour l'empêcher de couler. Son sauveur. Et puis William était mort, et comme par miracle, Angela était arrivée. En 2012, l'année de la mort de William, l'arrivée de Noël prit Irène par surprise. Alors qu'elle avait raté l'apparition progressive des décorations dans les vitrines, qu'elle avait inconsciemment ignoré les chansons agaçantes, du jour au lendemain, un froid glacial tomba sur la ville et tous les gens qui passaient devant sa fenêtre semblaient transporter un sapin. Irène reçut plusieurs invitations, une de son amie Jen, qui avait déménagé à Édimbourg avec son mari, et une autre d'une cousine qu'elle connaissait à peine et qui habitait à Birmingham. Quelle idée d'habiter à Birmingham ! Qu'elle s'empressa de décliner, arguant qu'elle ne se sentait pas la force de s'éloigner de Londres à cette période de l'année. Un demi-mensonge, car si elle ne voulait pas partir de chez elle, c'était surtout parce qu'elle savait que William ne serait plus jamais là pour passer les fêtes à ses côtés et qu'elle préférait se débarrasser de ce premier Noël en solitaire une bonne fois pour toutes plutôt que de le repousser d'un an ou deux. Angela, qui avait parfaitement compris la détresse de sa voisine, lui proposa de venir au moins passer le réveillon chez elle. Avec Daniel, on comptait commander des côtes d'agneau au Deli Grill. Tu verras, elles sont délicieuses. Irène se laissa convaincre. L'après-midi du 24, elle passa chez le coiffeur, chez la manucure, et acheta quelques petits cadeaux. Un exemplaire de la mémoire retrouvée pour Angela, et un bon d'achat dans un magasin de loisirs créatifs pour Daniel. De retour chez elle, elle eut à peine le temps de poser ses affaires qu'elle entendit un son des plus étranges, une espèce de long gémissement animal, très sourd, qui fut brutalement interrompu par un fracas de verre ou de porcelaine brisée. Ensuite vinrent les cris.
« Je n'en peux plus de toi ! Il est 4 heures de l'après-midi et regarde-toi, bon sang ! Mais regarde-toi !»
La voix de Daniel était aiguë, étranglée. La voix de quelqu'un à bout. Celle d'Angela frisait l'hystérie.
« Dégage !»
hurla-t-elle.
« Dégage de chez moi, espèce de... connard !» Bon sang, si seulement...
Quoi ? Si seulement quoi ? Allez, dis-le !
Si seulement tu n'avais jamais existé !
Irène entendit ensuite quelqu'un dévaler l'escalier, puis la porte d'entrée claqua si fort que l'allée tout entière parut trembler. De la fenêtre, elle vit Daniel s'éloigner à grands pas, livide, les poings serrés. Angela apparut quelques instants plus tard. Elle était tellement ivre qu'elle tenait à peine debout. D'ailleurs, elle finit par tomber et Irène sortit pour l'aider à se relever. Après l'avoir réconfortée du mieux qu'elle put, Elle l'aida à rentrer et, alternant entre diplomatie et intransigeance, elle parvint à l'escorter jusqu'à sa chambre et à la convaincre de se coucher. Pendant tout ce temps, Angela n'arrêta pas de parler, ou plutôt de marmonner des bouts de phrases plus ou moins intelligibles.
« Tout le monde m'avait pourtant dit d'avorter, » balbutia-t-elle à un moment. « Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Ah, si j'avais eu la même chance que toi, Irène. »
« De quoi tu parles ?»«
La chance d'être stérile. »
Irène ne revit Angela que le surlendemain, lorsque celle-ci se présenta à sa porte avec un livre, un recueil de nouvelles de Shirley Jackson, et une boîte de chocolat en s'excusant pour le réveillon raté.
« Je suis tellement désolée, Irène. Je m'en veux beaucoup, je t'assure, mais... on s'est disputé avec Daniel et... »
Elle ne semblait avoir aucun souvenir de sa chute, ni de ce qu'elle avait dit après. Irène, elle, était toujours furieuse. D'ailleurs, elle hésitait à raconter à Angela ce qui s'était passé, à lui dire comme elle s'était sentie blessée. Angela dut percevoir sa colère, ou plutôt eut-elle un souvenir éclair de leur échange, car elle vira d'un coup au cramoisi et balbutia
« Ce n'est pas moi, tu sais, c'est l'alcool. Je sais bien que ce n'est pas une excuse. »
Elle attendit qu'Irène dise quelque chose, puis, voyant que celle-ci ne semblait pas disposée à parler, elle fit un pas vers elle et lui déposa un baiser sur la joue. Avant de partir, elle ajouta « La première fois qu'on les tient dans nos bras, on imagine leur avenir et on l'espère rayonnant. Je ne parle pas d'argent, de succès, de gloire ou quoi que ce soit de ce genre, mais de bonheur. On leur souhaite d'être heureux, tout simplement. Et on serait prêt à mettre le monde à feu et à sang pour ça. »